sur Inter, il est 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le lundi 6 janvier. Bonjour à tous, Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, 33e jour de grève contre la réforme des retraites. Si la situation s'améliore à la SNCF, elle reste difficile en Île-de-France, avec une forte mobilisation à la RATP. Et avant la reprise des négociations demain, de nouvelles propositions sont sur la table. On voit ça après les autres titres, Agnès.
Une foule immense assiste en ce moment aux obsèques du général Soleimani à Téhéran, Washington de son côté, multiplie les menaces après le vote du Parlement irakien appelant le gouvernement à expulser les soldats américains. La première réaction officielle de la justice japonaise, une semaine tout juste après la fuite de Carlos Ghosn. Et puis le succès de Brad Pitt et Joaquin Phoenix au Golden Globes, mais déception pour les Français.
Les invités de France Inter ce matin, 7h50, Léa.
C'est l'affaire qui secoue le monde littéraire depuis 10 jours. Les accusations de pédophilie lancées contre l'écrivain Gabriel Matzneff par une de ses anciennes victimes. Qu'en pense celle qui avait dénoncer l'inceste qu'elle avait subi dans le livre du même nom. Christine Angot sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure et à 8h20, Léa, nous serons avec le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, notre invité. Dans le grand entretien du 7-9, le standard est ouvert 01 45 24 7000.
France Inter.
Un lundi de rentrée toujours sous tension au 33e jour donc de grève contre la réforme des retraites. Côté SNCF, la situation s'améliore avec 8 TGV sur 10, 2 TER sur 3, un intercité sur 3 et un transilien sur 2. Côté RATP, en revanche, le trafic reste très perturbé avec des rames de métro uniquement aux heures de pointe sur la majorité des lignes. Une situation que vivent au quotidien les franciliens depuis plus d'un mois. Direction ce matin Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine où se trouve l'envoyé spécial de France Inter. Julie Pietri. Bonjour Julie.
Bonjour.
Un train sur deux en moyenne ce matin au départ de Bourg-la-Reine pour Paris avec des voyageurs entre exaspération et résignation.
Les voyageurs arrivent petit à petit déposés sur les quais du RER par les escalators. Sur les panneaux d'affichage de l'attente, comme toujours depuis un mois maintenant, une quinzaine de minutes pour l'instant à patienter avant de monter dans un train pour Paris. Koulibaly fait le ménage dans le nord de la capitale.
L'un des moyens de transport les plus fiables, du moins que le travail reprenne, c'est tout. Voilà, parce que c'est la galère, là. C'est pas évident. Voilà, souvent tu finis à 11h, mais tu es obligé d'attendre jusqu'à 16h à la reprise pour pouvoir venir à la maison. C'est compliqué tout ça.
Car sur son trajet, entre son travail et son domicile, le trafic se raréfie toujours en dehors des heures de pointe. Comme tous les autres usagers croisés ici ce matin, Koulibaly ne pensait pas que la grève durerait au-delà des fêtes.
Je n'ai pas pensé que ça allait durer autant. Hein. Ça, j'avoue, non. En toute honnêteté, voilà. Mais vraiment qu'ils trouvent une solution, quoi. Voilà. C'est dans l'intérêt de tout un chacun d'entre nous.
Merci.
Merci, au revoir.
Bon voyage. Et le voilà qui monte dans un train. Pas de politique pour cet homme, pas de soutien au gouvernement, pas de soutien non plus aux syndicats, mais l'espoir, vous l'avez entendu, que des discussions soient menées et qu'elles aboutissent rapidement.
Merci Julie Pietri, en direct de Bourg-la-Reine ce matin pour France Inter avec Sandrine Malon pour les moyens techniques. Sur le fond, le dossier des retraites sera sur la table du Conseil des ministres dès ce matin. Comme le veut la tradition, le gouvernement se retrouve pour un petit déjeuner de travail au ministère de l'Intérieur avant de se rendre à pied à l'Élysée. Mais quelles sont ce matin les pistes de discussion pour sortir du conflit. Laurent Berger pour la CFDT a redit hier soir que l'âge pivot était injuste et inutile. Richard Ferrand dans Le Parisien. Ce matin, le président de l'Assemblée nationale propose un assouplissement de l'âge pivot. Cyril Gradiani.
Édouard Philippe n'est manifestement pas le seul à vouloir trouver un compromis. En formulant publiquement ses propositions, Richard Ferrand apporte sa pierre à l'édifice et tente de trouver une sortie de crise sur le plus gros point de crispation, l'âge pivot. Le président de l'Assemblée veut limiter le malus à 3 ans, alors que pour le Premier ministre, un malus sur sa pension durerait jusqu'à la fin de ses jours. Cette décote temporaire de l'âge pivot avait été évoquée par la porte-parole Sibeth Ndiaye sur l'antenne de France Inter, mais quelques minutes plus tard, elle avait rétro-pédalé, expliquant s'être trompée. Visiblement, la bourde a donné des idées à d'autres. Le député du Finistère propose de moduler le principe de l'âge pivot, clé de voûte du rétablissement financier du régime des retraites, et défendu avec force par Édouard Philippe. Mais elle constitue Une ligne rouge pour la CFDT, comme l'a rappelé hier soir Laurent Berger. Alors la proposition de Ferrand, dont la proximité avec Emmanuel Macron n'est plus approuvée, c'est un peu du « et en même temps macronien », essayer de se placer entre les deux camps pour les contenter à l'heure où les discussions doivent reprendre.
Et en attendant, d'autres professions rejoignent le mouvement cette semaine, notamment les avocats, nous y viendrons dans le journal de 8h, mais également les salariés des raffineries, les points clés d'une semaine cruciale pour les négociations, c'est à retrouver également sur franceinter.fr.
Il est 7h05, Agnès, la tension reste très forte entre les États-Unis et l'Iran, les deux pays multipliant les menaces de représailles et de sanctions.
Hier, Téhéran a annoncé vouloir s'affranchir désormais de toute limite sur l'enrichissement de son uranium. L'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 et dénoncé par Donald Trump ne tient plus qu'à un fil. Berlin, Paris et Londres ont lancé hier soir un ultime appel pour inciter les Iraniens à rester dans les limites de cet accord. Washington, de son côté, a réitéré ses menaces à l'égard de Téhéran. Correspondance de Grégory Phillips à New York pour France Inter.
Donald Trump promettait samedi sur Twitter aux Iraniens des frappes militaires sur 52 sites symboliques du pays. Si jamais le régime iranien tuait ou blessait un seul ressortissant américain, 52 pour le nombre d'otages qui, à la fin des années 70, avaient été retenus à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Hier soir, le président américain précise, ces représailles majeures pourront aussi viser des sites culturels. Donald Trump s'exonère aussi de l'avis de son congrès. Mes tweets, écrit-il, serviront de notification aux parlementaires américains. Et alors les États-Unis frapperont durement et rapidement, et peut-être même de manière disproportionnée. Message aux Iraniens donc, message aussi aux élus démocrates qui depuis vendredi sont furieux de ne pas avoir été ni consultés ni informés du raid visant le général Soleimani à Bagdad et dénoncent le risque d'escalade entre les deux pays. Enfin, la colère présidentielle vise aussi le parlement irakien qui hier a réclamé l'expulsion des 6 000 soldats américains déployés dans le pays. Si les Irakiens font ça, dit Trump, alors ils s'exposeront à des sanctions extrêmement fortes, comme ils n'en ont jamais vu auparavant. New York, Grégory Phillips, France Inter.
Et en ce moment à Téhéran, une foule immense assiste aux obsèques du général Soleimani, tué dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'un raid américain à Bagdad. Brandissant des portraits de leurs héros, les Iraniens sont installés aux abords de l'université où l'ayatollah Ali Khamenei doit prendre la parole. L'actualité à l'étranger, c'est aussi l'ouverture aujourd'hui à New York du procès d'Harvey Weinstein, l'ex-producteur tout-puissant d'Hollywood, accusé de harcèlement sexuel, d'agression et de viol par plus de 80 femmes. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui ne concerne plus que deux plaignantes, mais les premières révélations il y a un peu plus de 2 ans ont lancé un mouvement inédit dans le monde entier baptisé MeToo. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Pas de procès en vue pour Carlos Ghosn qui a fui la justice japonaise. L'ex-PDG de l'Alliance Renault-Nissan réfugié au Liban depuis une semaine donnera après-demain une conférence de presse. Et ce matin à Tokyo, c'est la ministre de la Justice qui s'est exprimée pour la première fois.
Nous sommes en train d'enquêter sur le moyen illégal employé, mais nous trouvons cela extrêmement regrettable. Le système judiciaire de notre pays repose sur des méthodes d'enquête justes pour établir la vérité. Il respecte parfaitement les droits humains de chacun et rien ne saurait justifier qu'un suspect en liberté conditionnelle s'évade. En lien avec les autorités nationales et internationales concernées, nous allons prendre toutes les dispositions pour que notre droit pénal puisse s'exercer. Par ailleurs, j'ai ordonné que soient prises des dispositions pour que les contrôles d'entrée et de sortie du territoire soient renforcés et faire en sorte que de tels cas ne se reproduisent pas.
Propos recueillis par Karine Nishimura. Et puis une situation ubuesque au Venezuela où le Parlement a ce matin 2 présidents. Luis Parra, ancien membre de l'opposition, désormais soutenu par le président Nicolas Maduro. Et puis Juan Guaido, leader de l'opposition, élu lors d'un vote qui s'est déroulé en dehors de l'hémicycle où il n'avait pas été autorisé à rentrer. Juan Guaido, lui, toujours soutenu par les États-Unis. Dans la pratique, l'Assemblée nationale a dû céder tous ses pouvoirs à une assemblée constituante composée uniquement de chavistes.
Et retour en France, Agnès, il est 7h09 avec le terrible décompte des féminicides en ce début d'année.
Une femme de 48 ans retrouvée morte à Givet dans les Ardennes. Son mari, déjà connu pour des faits de violence, est en garde à vue. En Corrèze, une mère de famille de 28 ans découverte sans vie à Ussel. Son compagnon est en garde à vue. Et puis à Toulon, un homme a été mis à examen et écroué hier pour homicide volontaire par concubin. Sa compagne, âgée de 31 ans et mère de 4 enfants, a disparu dans la nuit du réveillon. Une chouette initiative à présent pour favoriser le lien entre les générations. Il y a 4 ans, ouvrait à Souvigny-Touraine, près d'Amboise, une école élémentaire collée à une maison d'accueil rurale pour personnes âgées. Dans ce bâtiment en forme de U, chacun à son côté, et il y a plusieurs espaces communs où les 48 élèves de CE1 au CM2 et les 24 résidents de plus de 60 ans se retrouvent régulièrement et tout le monde y trouve son compte. Manon de Verdevé a assisté à un atelier gâteau.
Les jaunes d'œufs, il faut les mélanger avec 180 g de sucre.
Sur son fauteuil roulant, une spatule à la main, Mireille, 90 ans, lit la recette et Ethan suit les étapes attentivement. Au menu aujourd'hui, un gâteau aux noix.
Je faisais beaucoup de pâtisserie chez moi, j'aimais beaucoup.
Si tu tournes trop ta pâte, tes blancs d'œufs vont plus être en neige.
Chaque résident est en binôme avec un enfant, ils se connaissent déjà très bien. 2 fois par semaine, 6 enfants viennent déjeuner à tour de rôle avec les résidents. Et à chaque fois que Marilène, 88 ans, voit ses petits, elle a toujours ce large sourire.
Chose primordiale pour moi, c'est parce qu'il y avait des enfants. Casser un petit peu la solitude, on partage beaucoup de choses.
Les mains dans la farine, Lily, 10 ans, est très concentrée. Elle veut que tout soit parfait pour les résidents.
Ils nous apprennent des choses et puis on discute ensemble et les 2 générations, c'est bien. Et puis ils sont gentils. On a plus de respect envers les plus âgés que nous parce que on sait ce que c'est maintenant.
À la récréation ou pendant une activité comme celle-ci, les enfants et les résidents se retrouvent presque tous les jours. Et entre les deux, il y a un lien fort, selon Yann Guillonnet, le directeur de l'école et mettre en CM1, CM2.
Les résidents donc, font partie intégrante de leur vie, de leur quotidien. Donc en fait, ils sont habitués à vivre ensemble. Les classes sont toujours ouvertes, donc les résidents peuvent venir quand bon leur semble en classe.
Et une fois les gâteaux dans le four, les enfants retournent en classe le temps de la cuisson, avant de retrouver les résidents autour de la table pour manger tous ensemble.
Reportage signé Manon Derdevé. Le carton du PSG hier soir face à l'INA Montlhéry en 32e de finale de la Coupe de France, 6-0. Les Parisiens n'ont laissé aucune chance au club de 6e division. L'OM, de son côté, a eu des sueurs froides face à Trélissac, club de National 2, battu à l'issue de la séance des tirs au but. Tirage au sort des 16e de finale ce soir, avant le dernier match, Rouen. Metz.
Le cinéma lance sa saison des prix avec les Golden Globes, Agnès, c'était cette nuit à Beverly Hills.
Prélude aux Oscars qui auront lieu dans un mois. La cérémonie présidée par le caustique Ricky Gervais a célébré Quentin Tarantino. Le dernier film de Sam Mendes, 1917, et puis bien sûr Brad Pitt et Joaquin Phoenix. Bonjour Loïc Piala.
Bonjour.
Vous avez assisté à la cérémonie, vous êtes d'ailleurs toujours sur place. Et c'est aussi une déception pour le cinéma français, coiffé sur le poteau par Parasite.
Oui, alors c'est une déception, pas vraiment une surprise hein, pour Les Misérables et pour le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Parasite, Palme d'Or au Festival de Cannes, bien sûr, qui plaît beaucoup aux Américains, donc c'était attendu. Netflix aussi avait des raisons d'espérer avec 3 productions, dont le très réussi Irishman de Martin Scorsese dans la catégorie du meilleur film dramatique. Mais c'est 1917, vous le disiez, un film de guerre tourné en plan séquence, hein, sorti sur quelques écrans seulement aux États-Unis pour l'instant, qui a gagné la prestigieuse récompense. Et son réalisateur, le Britannique Sam Mendes, a aussi été honoré. Sur scène d'ailleurs, il a remercié la presse étrangère Hollywood de mettre en lumière un film qui, dit-il, doit se voir sur grand écran, une allusion peut-être à Netflix qui ne sort pas ses films en salle. Belle soirée également, vous le disiez, pour Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Meilleure comédie, les Golden Globes séparent drame et comédie, hein. Meilleur scénario et meilleur acteur dans un second rôle pour Brad Pitt. Autre récompense remarquée, le Golden Globe du meilleur acteur dans un drame pour Joaquin Phoenix, effrayant dans Joker, et celui remis à Awkwafina, l'héroïne de The Farewell, un petit film indépendant sur une famille sino-américaine. Awkwafina, une rappeuse, devient la première asiatique à recevoir un Golden Globe de meilleure actrice dans une comédie.
Merci Loïc Piala, donc en direct de Beverly Hills, et puis on vous retrouve dans un mois pour les Oscars.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, code postal à Bouaye aujourd'hui, en Loire-Atlantique, où la population ne cesse de grandir. On va faire un point route, premier point route de la matinée. Simon Soubieux, bonjour.
Bonjour Nicolas.
La matinée est compliquée.
Oui, de gros ralentissements à l'entrée des grosses agglomérations. On peut citer Lille, Lyon ou encore Bordeaux, mais c'est en région parisienne que c'est le plus compliqué. Déjà plus de 200 km de bouchons, de nombreux ralentissements, notamment sur la 6 en arrivant du sud en direction de la capitale. Comptez 45 minutes pour faire une 15 km, ou encore sur la 1 en arrivant du nord. Vous mettez là aussi 3 quarts d'heure pour parcourir une 10 km.